Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Hodiot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce lundi soir 23 novembre 2020. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal, suivi d'un commentaire politique. Vous pouvez écouter ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le char Karar sera fourni aux forces terrestres en masse après avoir passé les étapes de test et d'évaluation, a déclaré le commandant de l'armée de terre iranienne. Un missile de croisière de l'unité balistique des forces armées yéménites a frappé la raffinerie d'Aramco en Arabie saoudite et le gouvernement guinéen annonce la suspension de toutes les manifestations de rue jusqu'à nouvel ordre. C'était les titres. En voici le journal. Un nombre de chars avancés de type Karar fournis à l'armée de terre iranienne est en cours de test et d'évaluation sur le terrain, a déclaré le dimanche 22 novembre le commandant de l'armée de terre iranienne, le général de brigade Qiomar Seydari. S'agissant de la mise en service opérationnelle de ce char national avancé, il a déclaré « Le char Karar est maintenant opérationnel au niveau des forces terrestres, dont les premiers ont été fournis à la force. » Nous avons reçu des échantillons de ce char et l'avons fourni aux unités blindées pour en faire les évaluations finales, identifier les lacunes et aider à mener à bien ce grand projet, a déclaré cette haute autorité militaire. Selon le général brigadier Idari, le char Karar sera fourni aux forces terrestres en masse après avoir passé les étapes de test et d'évaluation. Symbole de l'autorité des forces armées de la République islamique d'Iran dans le domaine de la guerre au sol, le char Karar est doté d'un système de contrôle de tir électro-optique, de capteurs de distance laser et de logiciels de balistique. À cela s'ajoute la capacité de tirer sur des cibles fixes et mobiles jour et nuit. Fort d'un guidage laser très précis, le char, dernier cri iranien, est également capable de tirer des missiles. Karar est une plateforme de tir polyvalente capable de traverser toute une gamme d'environnements différents. Ce puissant char est équipé d'un système de navigation et l'affiche pour le conducteur et dispose également d'un système d'automatisation de munitions. Le représentant de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, Mikhail Ulyanov, a jugé déraisonnable l'intégration de la question nucléaire iranienne avec d'autres dossiers. Certains analystes estiment que la normalisation de la situation à ce sujet nécessite d'aborder les questions du programme de missiles de l'Iran et de son comportement dans la région, ce qui n'est pas juste. Il n'est pas judicieux d'intégrer le dossier nucléaire iranien et d'autres questions qui peuvent être résolues dans des contextes plus larges régionaux, a tweeté Ulyanov rappelant « Les États-Unis sont fiers de dire que les pressions exercées contre l'Iran avaient un grand effet destructeur sur l'économie de ce pays. Mais ce qui devrait également être pris en considération, c'est l'affaiblissement du régime de non-prolifération nucléaire, les problèmes causés pour le peuple et l'échec complet des objectifs déclarés, les 12 revendications de Pompeo. » Les autorités iraniennes ont appelé à plusieurs reprises les États-Unis à respecter leurs engagements et à retourner à la loi. Le porte-parole des forces armées yéménites a annoncé que la raffinerie d'Aramco en Arabie Saoudite avait été frappée par un missile Rauts 2. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sali, a déclaré qu'un missile de croisière Rauts 2 de l'unité de missiles de l'armée d'Ansarallah du Yémen avait frappé une filiale de la distribution de pétrole d'Aramco en Arabie Saoudite après avoir été soumis à des tests sur le sol saoudien et cela dans des conditions qui n'ont pas été annoncées. Ces missiles viennent d'entrer dans la phase opérationnelle, a-t-il tweeté, et de poursuivre. Le missile Rauts 2 s'est abattu avec une très haute précision sur les cibles prédéterminées. L'armée syrienne est prête à lancer une opération d'envergure contre Daesh après 10 mois de combats dans les deux sens, dans les régions du centre et de l'est du pays, a rapporté le site web libanais Al-Masdar News. Selon les rapports du gouvernorat d'Alep, l'armée syrienne a déplacé des renforts de la partie ouest du pays vers la partie nord-ouest de la région de désert de Syrie, alors qu'elle se prépare à une vaste opération contre Daesh. Cette opération intervient quelques mois seulement après que Daesh a commencé à cibler la partie orientale du gouvernorat de Hama, une région de Syrie, d'où il s'était retiré après avoir subi une défaite en 2017. Il semble que l'opération commencera dans la partie nord-ouest du désert de Syrie, mais s'étendra probablement aux zones autour de Badial Sukhna, où Daesh a creusé une grande forteresse près de cette ville désertique à l'est de Palmyre. La dernière opération majeure contre Daesh a eu lieu au cours de l'été, lorsque les forces aérospatiales russes ont mené une attaque aérienne à grande échelle contre le groupe terroriste près des frontières administratives des gouvernorats de Homs et de Deir ez-Zor. L'armée russe a rapporté que des dizaines de daeshistes avaient été liquidés lors de ce raid aérien à grande échelle. Les brigades des Ezzedine Rassam, branche militaire du Hamas, ont tiré un missile laissé sur la côte et la mer dans l'ouest de la bande de Gaza. Les médias palestiniens ont déclaré que les brigades des Ezzedine Rassam, branche militaire du Hamas, avaient tiré un missile laissé sur la côte et la mer dans l'ouest de la bande de Gaza. Les sources israéliennes, elles aussi, ont confirmé la nouvelle. Le tir d'essai intervient alors que le Hamas a tiré un missile sur la ville d'Astralan Eshkol samedi soir. Et selon les médias palestiniens, le missile a réussi à infiltrer la couverture du bouclier du Dôme de Fer, bien que les responsables israéliens aient prétendu à maintes reprises que le champ de la couverture du système de défense anti-missile a été testé à son extrême. Le tir d'essai de ce nouveau missile est un signal d'avertissement aux dirigeants de Tel Aviv. La résistance peut renforcer sa capacité de missile à tout moment. La capacité croissante des missiles de la résistance palestinienne semble avoir dérouté l'armée israélienne, dont les failles et les bavures dans leurs opérations est en hausse. Le dernier exemple en date est le renversement d'un char d'assaut israélien dans le nord de la vallée du Jourdain, dimanche 22 novembre. Certes, les sources israéliennes ont prétendu que l'incident n'a fait aucune victime parmi les soldats ou les civils. L'Algérie réitère une fois de plus son soutien au gouvernement légitime et au peuple syrien. L'Algérie apporte son soutien à la Syrie. C'est ce qu'a déclaré le ministre algérien des Affaires étrangères en soulignant que le peuple syrien devait décider de son propre destin et qu'aucun pays étranger ne devait s'immiscer dans cette question. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadem, a rencontré l'ambassadeur de Damas à Alger et a présenté ses condoléances pour le décès de son homologue syrien Walid al-Mualem. Boukadem a déclaré que la perte d'un diplomate chevronné comme Walid al-Mualem est aussi une grande perte pour le monde arabe et la diplomatie arabe. Il a souligné que l'Algérie avait été aux côtés de la Syrie dans les circonstances les plus difficiles et qu'elle resterait toujours à ses côtés, pas seulement en parole, mais en pratique. La position de l'Algérie est décisive et fondée sur des principes, a déclaré le chef de la diplomatie algérienne à propos de l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Syrie. Selon Boukadem, seuls les Syriens peuvent décider de leur propre destin. Récemment, le ministre algérien des Affaires étrangères a appelé tous les pays arabes à créer les conditions pour que la Syrie revienne dans la Ligue arabe, qualifiant l'absence de la Syrie de grande perte pour l'Union et les États arabes. Dans une déclaration lue à la télévision nationale, le dimanche 22 novembre, le gouvernement guinéen annonce la suspension de toutes les manifestations de rue jusqu'à nouvel ordre. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement. Le gouvernement justifie cette mesure de suspension pour des raisons sanitaires. Le gouvernement rappelle aux partis politiques alliés de la mouvance présidentielle ainsi qu'à toutes les entités politiques et sociales la suspension pour raisons sanitaires des manifestations de masse sur toute l'étendue du territoire national, a déclaré Aboubacar Sylla. Cette mesure tombe alors que l'opposition politique, notamment l'UFDG et ses alliés, s'apprêtent à redescendre dans la rue le mercredi 25 novembre pour protester contre les résultats de la dernière élection présidentielle et réclamer la victoire de leur candidat Sylou Dellan Diallo. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Drone Mirage 6 arrive au Venezuela. Avis de tempête sur les côtes américaines. Il y a un mois, Elliot Abrams promettait de frapper toute cargaison aérienne et navale iranienne à destination du Venezuela si cela transportait des missiles. Et cette menace tombait juste le jour où le premier avion cargo iranien se posait à l'aéroport de Caracas. De toute évidence, sur cette alliance résistance Amérique du Sud, les États-Unis ont tout faux. Le samedi 21 novembre, le président Nicolas Maduro a annoncé l'établissement imminent d'une liaison aérienne directe Iran-Venezuela, annonce qui a fait suite à une autre, celle de ce même président, vendredi, où il a fait état d'une armée vénézuélienne désormais capable de produire des drones Mirage 6. Eh bien, c'est là une différence de vision qui sépare des années de lumière l'Iran des États-Unis. Pour l'axe de la résistance, l'alliance militaire économique politique ne se réduit pas à des contrats de vente. Il s'agit surtout du transfert du savoir. Ainsi, le Venezuela fabrique depuis peu une variante du drone iranien Mirage 6, connu pour ses hauts faits en Syrie et en Irak, contre les terroristes ou encore contre les troupes d'occupation. Mirage 6 est un drone de reconnaissance, de surveillance et d'acquisition de cibles, capable d'emporter 4 missiles guidés de type, par exemple, RAEM. Bombe à guidage thermique et cylindrique avec une meilleure précision de demi-pointage. La coopération militaire entre Caracas et Téhéran n'a jamais été aussi importante et tout indique qu'elle sera renforcée, pourquoi pas par un apport chinois et nord-coréen que d'aucuns estiment comme décisif, notamment en ce qui concerne le volet des missiles balistiques sol-sol tactiques et de croisière, lesquels feront le malheur des côtes américaines. Mais les Américains, qui avaient auparavant menacé l'Iran de détruire des convois de missiles envoyés vers le Venezuela, ne sont pas restés indifférents à l'information portant sur la production de masse de drones Mirage au Venezuela. Une chose est claire, les États-Unis sont plus préoccupés par le transfert du savoir militaire et partant des capacités de dissuasion aux alliés de l'Iran que par le comportement destructeur de l'Iran lui-même, ou encore par les progrès des armes militaires de la République islamique d'Iran, même si cela confère aux Iraniens un pouvoir de dissuasion particulièrement inquiétant, estime AIPAC Times, dans un article qui commente l'annonce de l'apparition de Mirage 6 dans le ciel syrien. Bien que le général John Eitan, le chef d'état-major adjoint interarmée des États-Unis, n'ait pas immédiatement commenté si le lancement avait été réussi ou pas, il a reconnu que le missile utilisé pour le lancement avait fait un long chemin. Cependant, l'une des principales sources de positionnement par satellite indique que le satellite Nouran est en orbite. C'est un grand succès qui inquiète l'Amérique, car cela prouve les capacités iraniennes à former un parapluie dissuasif s'il acquiert des armes nucléaires et des missiles balistiques à longue portée. En effet, les pays dotés de tels moyens de dissuasion ne craignent plus que d'autres pays lancent des frappes militaires punitives ou de représailles contre eux. Et imaginez si une telle technologie, une fois totalement maîtrisée par l'Iran, tombait entre les mains du Venezuela. Les responsables iraniens considèrent les États-Unis comme leur principal ennemi, point commun entre Téhéran et Caracas, compte tenu du niveau de coopération militaire entre l'Iran et le Venezuela. Tout est possible, même des manœuvres électromagnétiques. Au train où vont les événements, rien n'est plus impossible. Maduro se frotte les mains, les Cubains, les Mexicains, les Nicaraguayens aussi, puisque l'Iran voit à travers eux des alliés.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce dimanche 22 novembre 2020. Ces derniers temps, les États-Unis ont multiplié leurs agissements à la frontière entre la Syrie et l'Irak. Selon une source sur le terrain, plus de 200 convois militaires américains ont traversé depuis la semaine dernière la province syrienne de Hasakeh vers la province frontalière de Ninive en Irak. Parallèlement, les troupes américaines déployées dans la province d'Al-Anbar s'efforcent de mettre en œuvre divers scénarios pour faire retirer les combattants de Hashd al-Shaabi et de Kataeb Hezbollah de la frontière irako-syrienne et surtout du point de passage KM Abu Kamal. Ces développements interviennent alors que le Pentagone a annoncé il y a quelques jours la réduction des forces militaires américaines en Afghanistan et surtout en Irak. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ces agissements des forces américaines à la frontière entre la Syrie et l'Irak, la réaction des forces de la résistance syro-irakienne et bien entendu l'avenir de la présence militaire américaine dans ces deux pays. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
C'est un mouvement de panique qui cache beaucoup de choses. Depuis le tir de 7 missiles roquettes mercredi contre l'ambassade base US à Bagdad, dont 4 ont fait royalement échec aux batteries de missiles antimissiles, ces rames US plantées dans l'enceinte de la base, la trêve USA résistance irakienne n'est plus. Quelques heures après cette attaque visant ce nid de la CIA qui traîne le nom de l'ambassade et qui continue alors qu'il est organisé massivement et en connexion avec la base US à Ain al-Assad, les infiltrations massives de Daeshistes depuis Hasakeh en Syrie vers l'Irak, le porte-parole des brigades Sayed al-Shuhada, résistance, a tenu à féliciter ce premier essai couronné d'attaques balistiques de la résistance irakienne contre les forces d'occupation, en ajoutant que les Yankees ne disposent pas d'une éternité pour satisfaire la première exigence du peuple irakien, à savoir prendre les poudres d'escampettes et retirer leurs troupes de Mésopotamie. En effet, ce qui décrit comme le début du départ des troupes US d'Irak ne trompe personne. Le contingent de 500 militaires US que le nouveau chef de guerre US Miller a commencé à retirer d'Irak a débuté son retrait alors que les USA continue à ramener à bord de gros convois militaires composés des dizaines de chars et d'hélicoptères et de drones leurs troupes de Syrie vers l'Irak pour visiblement les concentrer à Al-Anbar, où une dizaine de bataillons de Hacht mènent de fulgurants combats de neutralisation et de nettoyage des cellules secrètes de Daesh et partant des USA. Selon des informations locales, les USA continuent à barricader Ain al-Assad, à y construire des tunnels et des tranchées, ce qui mise aux côtés des mouvements de troupes en provenance de Deir ez-Zor et de Hasaki en Syrie n'a rien d'un retrait. La semaine dernière, la résistance est-syrienne a mené une spectaculaire opération contre la base US à Shadadeh à coups de drones armés et a liquidé 4 soldats américains, déclenchant ainsi un mouvement de retrait US. 4 convois ont depuis quitté l'est de l'Euphrate à destination du Kurdistan irakien d'Al-Anbar, alors même que ce trajet de retour est depuis mercredi semé d'embûches, la résistance irakienne affûtant ses missiles de précision et des drones armés contre l'occupation.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Damas avec Maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique. Et depuis Paris avec Mme Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales. Maître Develay, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Mme Mitani.
Maître Develay, comme vous le savez, ces derniers temps, les États-Unis ont multiplié des agissements à la frontière entre la Syrie et l'Irak. Alors, des centaines de convois militaires ont traversé justement la province syrienne de Hasakeh vers la province irakienne de Ninive. Pour de nombreux observateurs, là, il s'agit en effet d'un contour, d'un nouveau front qui est en train de se former, un contour étendu d'une part dans la province d'Al-Anbar en Irak, d'autre part dans la province de Deir ez-Zor et de Hasakeh en Syrie, et l'objectif serait de en effet d'entraver la formation, la création de cette route stratégique Iran, Irak, Syrie, Liban. Dans quel contexte, Maître Develay, replacez-vous les récents agissements des forces américaines à la frontière entre l'Irak et la Syrie?
Oui, ben effectivement, comme vous le soulignez, c'est avant tout, comme Donald Trump l'a prononcé lui-même, la raison pour laquelle les forces américaines sont encore présentes au Levant, il n'a jamais fait secret de cela, c'est, je cite, pour garder un œil sur l'Iran. L'administration américaine considère que à la faveur du vide qu'ils ont eux-mêmes causé en envahissant l'Irak en 2003, ils ont essentiellement permis à l'Iran d'étendre son influence. Et donc maintenant, alors même qu'ils, il y a encore quelques mois, prétendaient être là pour contenir Daesh, alors qu'eux-mêmes soutiennent, équipent et ravitaillent Daesh, la menace takfiriste ayant été plus ou moins mise sous contrôle, c'est encore une fois les propos de Donald Trump, on s'aperçoit que plus le temps passe, plus la justification de la présence américaine évolue sans arrêt. Et qui dit présence américaine dit la présence de cette coalition dite globale, qui n'a aucun fondement juridique quant à sa présence en Irak, mais aussi en Syrie, bien sûr. Si vraiment il était question de combattre le terrorisme, ils auraient depuis longtemps coordonné leurs efforts avec le gouvernement légitime et central de Damas et avec les alliés de Damas. Or, on s'aperçoit que ces changements de justification cachent en fait un agenda qui est celui de maintenir une forme d'hégémonie dans la région, alors même que et les Irakiens et les Syriens et d'autres peuples dans la région la refusent et de plus en plus, et par le biais de leur parlement, ont voté pour l'évacuation des forces américaines. Donc ce qu'on est en train de voir effectivement avec cette espèce de front qui est en train d'émerger entre le nord-est syrien et cette fameuse province d'Al-Anbar, où les Américains ont été toujours présents depuis 17 ans maintenant, hein. Ils ont beaucoup de forces là-bas concentrées. c'est avant tout, il semblerait, une tentative de maintenir, de contenir en tout cas, ce qui semblerait être une mobilisation de tous les instants de la résistance irakienne, qui elle-même coordonne avec ses alliés de la région, donc l'armée syrienne, et probablement des conseillers militaires de la République islamique d'Iran. Et je crois que les choses deviennent de plus en plus claires maintenant. L'idée, c'est une fois pour toutes de mettre à nu les motivations profondes des Américains pour ce qu'elles sont, à savoir une volonté désespérée de rester dans la région, de s'implanter en Irak, parce que les Américains, quelles que soient les intentions qu'ils nourrissent à l'égard de l'Iran, savent que le champ de bataille sera en Irak. Et donc on assiste dans ce contexte-là à un positionnement des forces armées américaines afin de faire face à ce qu'eux considèrent comme un danger existentiel à leur présence dans la région.
Merci infiniment pour ces éclairages. Maître Develle, restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite rejoindre Mme Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales à Paris. Mme Armidani, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci de votre invitation. Bonjour à toute l'équipe Press TV, à vous-même et à M. Develle et à tous les téléspectateurs.
Madame Idani, alors au dernier jour, en effet, dernière semaine du mandat du président américain sortant Donald Trump, on parle beaucoup justement de la situation en Afghanistan et en Irak, avec cette décision annoncée récemment par le Pentagone, à savoir la réduction de la présence militaire américaine dans ces deux pays. Et justement, dans ce contexte, il y a eu des agissements ces derniers temps en Syrie et en Irak. Est-ce que là, Madame Idani, s'agit d'un début de départ des troupes américaines, ou bien il s'agit plutôt d'une rotation des troupes, dont l'objectif, comme disait Maître Develle, d'une part de maintenir l'hégémonie américaine dans la région et d'autre part de contenir les forces de la résistance.
Je crois que bel et bien, effectivement, c'est un redéploiement en fait des forces américaines face à l'offensive de tous les toutes les forces à la fois irakiennes, syriennes, libanaises et iraniennes qui ont décidé effectivement que la région sera désormais exempte de toute présence américaine. Et ça a été acté pour tout l'axe de la résistance au lendemain du vil assassinat du général Soleimani et du général Abu Mahdi al-Mohandes. En fait, il y a eu des délais qui ont été donnés. Donc, je rappelle quand même que les Iraniens ont violemment frappé la base de Ayn al-Assad, en fait, en disant clairement que c'était un début de vengeance du sang du grand général Soleimani et que les autres actes suivront. Et que de toute façon, suite à cela, le Parlement irakien a voté à une grande majorité le départ et puis la nécessité du départ de l'ensemble des forces américaines. À partir de ce moment-là, les Américains, en fait, par la voix de Trump, ont commencé effectivement à louvoyer. Tantôt, ils disent « on va se retirer de la Syrie », tantôt ils disent « on va se retirer de l'Irak », etc. Et pendant ce temps, on ne voit absolument aucune sortie. D'ailleurs, il y a récemment un général, le ministre de la Défense ancien que Trump a démissionné, il a bien dit « nous avons menti à notre organisation, à notre direction politique sur le nombre des soldats américains stationnés en Irak ». Et donc, Trump n'était… on lui donne des faux événements ou des faux calculs, etc. Et lui, il continuait à dire « on va se retirer », mais en fait, il n'y a absolument aucune volonté de se retirer. Et ça, on le voit, d'une part, en réactivant Daesh, Parce que, en fait, et puis en s'opposant à tous les efforts à complètement nettoyer, je dirais, l'Irak et la Syrie, et notamment les frontières syro-irakiennes de ces terroristes, donc les Américains les réactivent, leur donnent de l'argent, des munitions, une logistique, et puis les dirigent. Il est clair que ce sont eux qui les dirigent. Donc, ils les déploient d'un côté, ils leur déploient d'un côté et de l'autre des frontières syriennes. D'ailleurs, je voudrais rappeler quand même que pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a 30 véhicules militaires qui sont partis de la Syrie, donc à travers les frontières, le passage Irak-Syrie à l'Oualid, qui est un passage complètement illégal, et qui sont allés rejoindre l'Irak. Et ce sont aussi, en plus de tous les véhicules qui portent qui transportent le pétrole syrien volé de tous les puits de Hasakeh et du nord de la Syrie. Donc en fait, ils agitent des false flags pour dire on va se retirer, mais en réalité, ils se redéploient. Je tiens quand même aussi à rappeler que Pompeu, il s'est dépêché de partir en Israël aussi, d'aller en Israël, il y était hier, de réannoncer que le Golan, il doit être annexé à Israël, que la Palestine doit être, enfin, et que Jérusalem est aussi la capitale d'Israël, et que beaucoup de pays beaucoup de terrains de terre et des Palestiniens doivent être sous l'autorité israélienne. Mais ceci, alors encore plus horrible, puisque c'est au lendemain d'un vote de l'ONU qui a réaffirmé la nécessité et le contrôle, que le fait, la nécessité de la souveraineté de la Syrie sur le Golan des Palestiniens sur leurs terres, et l'interdiction totale à Israël d'exploiter les richesses de ces territoires. Et je rappelle quand même que ce vote a été fait à une très grande majorité, 153 pays.
Merci, Madame Idemi.
Et une petite minorité, il y avait 6 abstentions et 2 pays ou 5 pays contre. Donc c'est aussi une défiance que font les États-Unis à toutes les lois internationales, à toutes les décisions de l'ONU, et qui veulent mettre leur diktat et les marques de leur diktat dans cette région.
Merci infiniment pour ces précisions, Madame Idemi. Maître Develay, alors à Washington, l'or est en quelque sorte au chamboulement. Alors Trump refuse toujours de concéder sa défaite. Dans la région, en Irak et en Syrie, alors le sentiment anti-américain est croissant. Le départ des troupes américaines, en effet, est une nécessité, est une exigence nationale, à la fois une exigence de la classe politique, mais aussi de l'opinion publique. Ceci étant dit, est-ce que, avec les récents mouvements, Maître Develay, il faudrait s'attendre à une guerre d'envergure à grande échelle entre les forces américaines et les forces de la résistance?
Bah écoutez, il faut espérer que ce ne sera pas le cas. Maintenant, le problème, c'est que la politique étrangère des États-Unis dans la région est exclusivement sous contrôle du lobby sioniste américain, donc les PAC. Les PAC bénéficient de ces relais par le biais des fondations, les centres de réflexion, qui sont des portes tournantes de pantouflage au sein du Pentagone, au sein du département d'État, au sein des agences de renseignement. Et ils ont la complète mainmise. Je veux dire, il n'y a absolument aucun contraste, aucune différence, que ce soit une administration soi-disant démocrate ou républicaine. C'est vraiment, comme ils le disent là-bas, c'est le troisième rail, c'est l'issue bipartisane par excellence. et que ce soit effectivement le candidat Biden ou que ce soit le président sortant, ça ne changera strictement rien. Comme l'a souligné Madame Bidani, effectivement, alors même qu'on devrait assister à des opérations portant sur une transition entre les deux administrations, on voit le secrétaire d'État se rendre au Moyen-Orient pour valider par sa présence de manière plus ou moins claire et sans ambiguïté et en violation du droit international et de toutes les résolutions sur le sujet, l'annexation des collines du Jolan. Donc voilà, on est dans cette défiance. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que avec ces opérations qui portent à détourner l'opinion publique sur ce qui peut se passer dans le cadre de cette élection, qui est plus une sélection qu'une élection, hein, sans parler de la crise sanitaire et de toutes les discussions que ça peut engendrer, cela peut effectivement créer un environnement favorable à des préparatifs qui pourraient, à la faveur d'une erreur de calcul, mener à une guerre régionale, effectivement, sans que personne, en fait, ne réalise qu'on est peut-être au précipice de cela. N'oublions pas que l'explosion de Beyrouth, au port de Beyrouth, 4 août dernier, bien qu'on ne connaisse pas encore les tenants et les aboutissants, mais on se demande pourquoi, puisqu'apparemment, les photos satellites que le FBI aurait en sa possession, ce dernier ne les a pas transmis au gouvernement libanais. Au niveau de la Syrie, on a eu le passage, l'étranglement économique avec le passage de cette loi César le 17 juin, donc dans la foulée. Donc il semblerait qu'il y a vraiment eu d'abord, dans un premier temps, un effort concerté de, si je puis dire, isoler chaque maillon de l'axe de la résistance afin de micromanager, si je puis dire, chacun de ces maillons. Et qu'en parallèle, on assiste effectivement à des opérations d'intoxication de la part des fonctionnaires américains, avec toujours ces injonctions contradictoires, cette espèce de technique de dire tout et son contraire. On apprend par exemple, effectivement, comme le disait Mme Bidani, que l'ancien envoyé spécial américain pour la Syrie, M. Jim Jeffries, se pavane en disant qu'essentiellement il a menti au président des États-Unis pendant 4 ans sur le nombre réel. Voilà.
Merci donc, infiniment.
Dans ce contexte-là,
Monsieur Develer,
tout est possible et il ne faut rien négliger et rester surtout extrêmement vigilant sur la situation et telle qu'elle est.
Merci infiniment.
Que le contexte l'exige.
Une toute dernière question à Mme Bidani. Mme Bidani, il nous reste 3 minutes, excusez-nous.
D'accord.
Alors, dans le contexte justement actuel des évolutions de la région, et notamment en Syrie et en Irak, à quel scénario faudrait-il s'attendre, notamment de la part des États-Unis qui ont, comme vous l'avez rappelé justement, qui ont sacrifié justement les intérêts du peuple américain, qui ont subordonné en effet ses intérêts à ceux de l'entité israélienne et du lobby pro-sioniste aux États-Unis.
En fait, je crois que les Américains comme les Israéliens vont avoir recours à des frappes éventuellement. Mais ils seront bien reçus par l'ensemble des forces de l'axe de la résistance qui sont au maximum de leur préparation, en fait aussi bien l'Iran, l'Irak, le Liban, la Syrie, donc et même les Palestiniens, la Palestine. Donc en fait, je pense qu'il y aura des petites des tentatives de ce type. D'un autre côté, il est certain que l'ensemble des peuples de la région sont déterminés à continuer à se battre pour leur indépendance, pour la souveraineté non seulement de leur territoire, mais leur souveraineté sur leurs ressources et sur la détermination de leur avenir. Et ça s'étend en fait de plus en plus. La résistance dans le nord de la Syrie, elle est populaire. La résistance populaire au nord de la Syrie s'amplifie et vise de plus en plus aussi bien les soldats américains que leurs valets de Qassad, en fait, hein, Et aussi, il y a de plus en plus aussi de mouvements contre tous les occupants, y compris les occupants turcs, parce qu'il y a aussi un partage de rôle entre les Turcs et les Américains dans la région, et qui sont tous les deux, qui agissent tous les deux pour le bien d'Israël d'ailleurs. Et donc, de toute façon, c'est une phase qui est très délicate, où on peut s'attendre à tout. Je voudrais quand même aussi signaler la course des Émirats arabes unis et de Bahreïn à passer des accords avec Israël et puis surtout des accords sécuritaires, militaires, etc. Et je pense que ça, c'est aussi c'est l'Iran, c'est le Golfe qui est visé, donc c'est l'Iran, c'est l'Irak aussi qui est visé, mais de toute façon aussi la détermination des deux peuples et elle triomphera. De toute manière.
Aïssar Midani, analyste franco-syrien des questions internationales depuis Paris, maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique depuis Damas. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. Qazvin est une province iranienne de l'ouest du pays. Selon d'anciennes sources historiques, la fondation de Qazvin date de la période Mède, au 9e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, la région montagneuse du sud et du sud-ouest de Qazvin appartenait au territoire Mède. Cependant, les fouilles archéologiques menées dans la région, notamment à Sakhez-Abad, près de Boinzahra, montre que Qazvin était déjà habité durant les 4e et 5e millénaires avant Jésus-Christ. Selon les résultats des recherches archéologiques, l'urbanisation de Qazvin remonte au 6e millénaire avant Jésus-Christ. Cette ville est rapidement devenue une voie importante de communication, notamment à l'époque des Mèdes et des Achéménides. À la fin de l'Empire parthe, les Daylamites se révoltèrent contre le gouvernement. La ville connut une période de troubles jusqu'à l'époque des Sassanides. Pour empêcher ces attaques, Shapur, roi sassanide, donna l'ordre de bâtir des fortifications autour de cette zone. Cette construction fut baptisée Shadshabur ou Keshvin. Par la suite, son développement progressif et l'adjonction des zones résidentielles la transformèrent en l'une des plus importantes villes de l'Iran. À la suite des invasions arabes, Qazvin fut occupée par Bara ibn Azib, commandant de l'armée de l'émir de Koufa en 645, 24 de l'égir lunaire. À cette époque-là, en raison du voisinage de Qazvin avec le territoire des Daylamites,
les Arabes y organisaient leur lutte contre les Daylamites. Par la suite, le passage à Razvin en 815 de l'imam Reza, 8e imam des chiites, est cité comme l'un des événements historiques locaux. Razvin a été occupé en 879-891 par Omar et Lais Safari. En 907, elle a été de nouveau occupée par le calife arabe. Ensuite, lorsque les Daylamites se sont emparés de la majorité du territoire iranien, en 933, Razvin a aussi fait partie des territoires sous commandement daylamite pendant près d'un siècle. Comme l'écrit l'imam Rafei, Sahib Ismail ibn Ebad, ministre de Fakhreddoule, est entré en 983 à Razvin et y a construit des édifices remarquables. Cette ville était alors sous le gouvernement d'Abu Ali Muhammad Jafari et ses successeurs, qui dura 60 ans. À l'époque des Seljoukides, Amirzahed Khamartash gouverne Razvin. La grande mosquée de cette ville ainsi que son plus grand canal souterrain sont les monuments historiques fondés à l'époque de Khamartash. Comme l'explique Bernard Louise, à cette époque, la faiblesse du pouvoir central ainsi que les invasions des Seljoukites ont provoqué des changements économiques, sociaux et culturels chez les habitants de Razvin. À l'époque de l'Empire Khwarezmien, Razvin subit une grande famine. En 1220, Sultan Mohammad Khwarezmshah fuit l'invasion mongole et se réfugie à Razvin. Ce fait conduit les Mongols à attaquer Razvin. Les habitants de cette ville résistent pendant 3 jours à l'invasion. Mais les Mongols envahissent le pays et massacrent brutalement ses habitants. Néanmoins, grâce au pouvoir des Ismaéliens, les Mongols ne sont jamais parvenus à dominer complètement ce pays. Devenue capitale de l'Iran à l'époque safavide, Razvin connaît alors une importante période de prospérité. Comme l'écrit Oruj Baik, Razvin était à cette époque une grande ville au cœur des voies de communication de l'ouest, du nord et du sud du pays. Son statut de capitale lui confère une valeur politique et commerciale accrue. On y édifie alors des marchés et des caravanserais. Néanmoins, après la mort du roi safavide Shah Tahmasp, une guerre civile éclate en Iran qui se solde avec le début du règne de Shah Abbas, prélude à une nouvelle période de stabilité et de prospérité. Shah Abbas lance ainsi de grands travaux, y compris des canaux souterrains pour résoudre le problème de l'eau, ainsi qu'un grand nombre de caravanserais. En dépit de l'intérêt qu'il ressentait pour Razvin, il déplaça la capitale du pays à Isfahan en 1597, notamment en raison d'une manque d'eau. À la fin de la dynastie safavide, Razvin devint la capitale du pays pour une courte période de 3 ans. Plus tard, Nader Shah choisit Razvin comme lieu de son couronnement. Fondateur de la dynastie des Afsharites, ce roi y construit un palais baptisé Ivan-e Naderi. Avant de s'installer à Isfahan, il confie la gouvernance de Razvin à Mohammad Reza Khan Shamlou. Molla Verdi Khan était le gouverneur de Razvin à l'époque de la dynastie Zand. L'école de Molla Verdi Khan fut sans doute édifiée à cette époque. À l'époque de la dynastie Rajad, Saad al-Saltané, gouverneur de cette ville, y bâtit le plus grand caravansérail urbain, nommé Caravansérail de Saad al-Saltané, contenant de belles arcades, une mosquée, un salon de thé, ainsi que plusieurs hammams. Ce magnifique édifice contribue à la prospérité économique de cette ville en accueillant de nombreux voyageurs. Avec le début de la révolution constitutionnelle en Iran, Razvin est devenu l'un des centres les plus importants du mouvement constitutionnel. La majorité de ses habitants se sont alors assemblés en vue de soutenir ce mouvement collectif iranien. Parmi les autres événements historiques s'étant déroulés à Razvin à l'époque Qajar, Citons la rencontre entre Reza Shah, fondateur de la dynastie Pahlavi, et le délégué de l'Angleterre au grand hôtel de cette ville. Cette rencontre contribua notamment à préparer le terrain au coup d'état militaire contre le gouvernement Rajar le 21 février 1921, qui aboutit à la chute de la dynastie Rajar et à la fondation de la dynastie Pahlavi en 1925. En outre, cette ville a été bombardée et occupée par les armées russes pendant les deux guerres mondiales. Après la sortie de l'armée russe de l'Iran, cette ville entre dans une phase d'industrialisation pendant le gouvernement de deux rois de la dynastie Pahlavi. La chute de Reza Khan, premier roi Pahlavi, et le couronnement de Mohammad Reza Shah en 1941 entraînent d'importants changements sociopolitiques chez les habitants de Razvin et plus généralement au sein du pays. Les Iraniens revendiquent de façon croissante une plus grande liberté d'expression et un respect de la justice. Des manifestations sont organisées à travers l'Iran, auxquelles le dernier roi Pahlavi répond de manière agressive puis brutale, aboutissant finalement à la chute de la monarchie. Après la révolution de 1979, Razvin, comme les autres villes d'Iran, a vécu les moments difficiles de la guerre Iran-Irak, à savoir les bombardements, les destructions et d'importantes pénuries pendant 8 ans, suivies d'un processus de reconstruction. Depuis plusieurs décennies, la stabilité revenue a permis à cette ville de devenir un lieu touristique et d'entamer un processus de restauration de ses monuments les plus éminents, dont la mosquée Jame ou encore le caravansérail de Saad al-Saltan.
Thank you.